des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours, une émission dédiée à la femme, son histoire, son actualité, ses petites manies, son impertinence, d'hier à demain, de l'humour à l'amour, de récits, de sujets, d'invités et d'artistes. Et aujourd'hui nous accueillons Christophe des Faux Passeports. Bonjour Christophe.
Bonjour Betty.
Ça va aujourd'hui ?
Eh bien oui, il fait beau, tout
en
va
forme.
Bien. Oui, on ne dira pas en forme de quoi. Mais...
Donc aujourd'hui, Coco va arriver un petit peu plus tard, puisque comme toute maman, entre guillemets, elle a dû aller conduire son fils, et elle va arriver dans 5-10 minutes à peu près. Donc du coup, on va peut-être mettre d'abord une petite musique, Angel, comme ça, ça lui laissera temps d'arriver.
Oui, donc alors, pour commencer, je vais passer Slide de Cameo, sorti en 1994.
Eh bien, on va écouter ça.
Yeah.
Donc c'est à nous. Oui, Angel, je sais, j'ai entendu regarder ce que je vais dire aujourd'hui. Donc en fait, là, on part sur la rubrique actualité. Tu nous lances le jingle, Angel ? Alors nous voici pour la rubrique actualité, donc il va y avoir des choses gaies, des choses moins gaies, comme d'habitude. Mais je vais commencer par une petite chose adorable. En Irlande, une chienne donne naissance à la plus grande portée. Je vais vous dire combien. Donc dans le petit village de Secora en Irlande, une chienne nommée Belle a donné naissance à une des portées les plus grandes de tous les temps. Cet heureux événement n'était pas du tout prévu, bien au contraire. Marie, irlandaise de 51 ans, la propriétaire de Bella et Archie, prévoyait de stériliser ses chiens. Mais la crise sanitaire et le confinement ont changé ses plans, l'opération a été annulée par le vétérinaire. Résultat, Bella et Archie se sont accouplés. L'adorable chienne de 15 ans, quand même, finalement tombée enceinte. C'est donc une portée qui a été inattendue, mais ce n'est pas la seule surprise qu'a eue sa maîtresse Marie. Il se trouve que Bella a en tout accouché de... Un chiffre, Christophe ?
Je n'ose même pas imaginer.
16 chiots. Ouais. Donc 8 mâles et 8 femelles. Ouais, on fait le choix du roi, quoi. Ouais. Voilà. Donc ce n'était donc... Selon les chiffres en Irlande, il s'agirait d'un record. En tout cas, cette portée est la plus incroyable enregistrée dans le pays. Bella a donc eu l'une des portées les plus grandes de tous les temps. Un des chiots n'a malheureusement pas survécu. Quant aux 15 autres, ils se portent comme un charme. Bien évidemment, les maîtres ont été pris au dépourvu. C'est un travail à plein d'assurer le bien-être de ces petites boules de poils. Marie s'est confiée au journal Mirror. J'étais en état de choc, je veux bien croire. Le vétérinaire nous avait dit qu'il y allait avoir 8 à 10 chiots. En avoir 15, c'était donc assez phénoménal, explique-t-elle avant de rajouter. Le rendez-vous de la stérilisation a été annulé pendant le confinement, car il n'était pas considéré comme urgent. Nous avons essayé de séparer Bella et Archie. Ce n'était pas prévu. La charge de travail est énorme. Marie a donc confié les chiots à l'adoption. Son fils, par exemple, a choisi de prendre l'un d'entre eux. Par ailleurs, elle n'a pas résisté à l'envie d'en garder un, qu'elle a nommé Isaac. À présent, elle compte bien leur donner de l'amour qu'ils méritent. Donc ça fait beaucoup, hein ?
Tu m'étonnes.
16.
On va ouvrir un chenil avec ça.
Je pense, ouais. Bon, c'est adorable dans un premier temps, mais bon.
Oui.
Bon. Après, c'est des labradors.
Ah, des labradors, bon. Ça se revend bien, ça, non ?
Elle les donne.
Elle les donne.
Ouais, elle les donne.
Elle n'a pas le sens des affaires, cette dame.
Bah, disons qu'il faut savoir les caser, hein, les...
C'est clair.
Donc, Donc là, on passe dans un registre un petit peu plus tordu, on va dire. Il jette son fils du 5e étage après avoir frappé sa femme.
Quand il n'y a pas d'autre solution.
Voilà. L'humour. Alors, a choisi dans le Val-de-Marne, un homme a jeté à la fenêtre son fils de 5 ans après une dispute avec sa femme. Le petit garçon a été hospitalisé à Necker sur Paris. Son pronostic vital est engagé. C'est vers 2h30 du matin, du vendredi 11 au samedi 12 septembre, a choisi dans le Val-de-Marne, que les faits ont eu lieu. Un petit garçon de 6 ans a été hospitalisé après avoir été jeté par la fenêtre par son père. L'appartement se trouvait au 5e étage et les conséquences semblent préoccupantes. Prise en charge à Necker à Paris, le diagnostic vital de l'enfant est engagé. Il était conscient à l'arrivée des pompiers. Il a été gravement blessé à la tête. L'agresseur a été interpellé sur place. Quand les policiers se sont rendus sur les lieux, les riverains tentaient de maîtriser l'homme en bas de l'immeuble alors qu'il s'en prenait encore à son fils. Les voisins essaient de protéger l'enfant et de la démence du père, selon les sources récoltées par Le Parisien. Les premiers éléments de l'enquête ont été dévoilés au journal. Il venait de se marier quelques heures plus tôt. Sa femme, âgée de 37 ans, était victime de violences conjugales et une dispute a éclaté ce soir-là. Après avoir reçu plusieurs coups, elle se serait enfuie. Il s'est ensuite acharné sur son fils, issu d'une union précédente, et l'aurait jeté du cinquième étage de l'immeuble. Un enquêteur affirme aux Parisiens qu'il était extrêmement en colère. L'homme aurait été placé en garde à vue et le service départemental de la justice judiciaire aurait saisi le parquet de Creil. Derrière les violences conjugales, la maltraitance des enfants, c'est une affaire qui lève le voile sur un véritable fléau. Le lien entre les violences conjugales et la maltraitance des enfants est considérable. Si encore aujourd'hui de nombreuses femmes subissent les coups de leurs conjoints, c'est tout un équilibre familial qui est ébranlé. Les tout-petits, eux aussi, sont victimes de ces violences. Il y a un impact psychologique que cela implique. Un mineur est témoin de disputes et assiste impuissant aux actes du bourreau, puisqu'il y a le risque que ce dernier s'en prenne à lui. Mmh. Au lieu de parler du Covid.
Oh, c'est peut-être lié. Hein. Les gens qui pètent les plombs, il y en a toujours. Mais là,
oui.
Là, effectivement, ce qui se passe actuellement, ça n'arrange rien.
Non, absolument pas.
Mais vu toutes les maltraitances qui ont été faites depuis mars ouais. aux femmes, les enfants, ouais. malheureusement...
Bah, je dirais que les flics, au lieu d'aller courir après les gens qui n'ont pas de masque.
Non.
Bah, si, ça serait mieux quand même.
Ah, ça arrive.
Ça arrive.
Ah, bon. Je pensais que tout ça allait
arrive.
Bien.
Moi,
moi
aussi.
Contrôle,
c'est... Bah, chez nous.
Ah, ouais, d'accord. Bon.
Alors, refus d'entrée à cause d'un décolleté.
Je suis désespéré.
Ouais. Bah, les femmes s'expriment, c'est bien. Parce que cela dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Ah, mais elles ont raison.
C'est pas la première fois qu'on nous refuse parce qu'on est en short ou parce qu'on a un décolleté ou parce ouais. qu'on a une mini-jupe.
Dans une église, je peux comprendre.
Oui.
Encore.
Mais encore.
Bon. Mais un musée. Surtout que dans les musées, il n'y a pas de statues de femmes nues si. Avec des seins.
Si, 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 si. Des tableaux de femmes nues. Parce qu'au Moyen-Âge, on peignait beaucoup des femmes nues.
On va peut-être les cacher aussi parce que.
Oui. Hein, bah non, c'est de l'art.
Ah, c'est de l'art.
Bah oui.
Mais la femme est un art.
Oui, bah pas pour eux. C'est une tentation pour certains. Donc, plus tôt cette semaine, une femme a été interdite d'entrer au musée d'Orsay à cause d'un décolleté jugé trop plongeant. Ce dimanche, les femmes ont manifesté à l'intérieur du bâtiment pour dénoncer cet abus. Je ne sais pas si tu as vu passer la photo.
Oui, elles étaient 25, je crois.
À peu près, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. Ouais. Non, mais elles ont eu raison.
Alors, moi, c'est petit aparté que j'ai vu passer sur Facebook, en fait, c'est que du coup, on les critiquait parce qu'elles avaient toutes des petits nichons, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de personnes de couleur, il n'y avait pas de vieilles femmes, il n'y avait pas de... Voilà. Donc, quelque part, je pense qu'après, il faut prendre du recul pour demander, bah, pourquoi ? Leur demander à elles pourquoi ?
Bah oui.
Elles auraient peut-être répondu qu'il y en a qui n'ont pas voulu ou mais... que peut-être t'étais malade avec le Covid. Mais voilà, donc... Il y a des manifestations qui peuvent être bien, mais il faut toujours... Bah, ça, c'est typiquement dans la France, mais bon. Bonjour, Madame ouais. Coco. Non, tu n'arrives pas discrètement. Donc, voilà. Donc, ce dimanche, elles ont donc manifesté donc, au Quai d'Orsay. En fin de matinée, le groupe féministe a investi l'allée centrale, seins nus, visage masqué, bah oui, Covid oblige, a affiché des messages sur leur torse. On pouvait y lire « Ceci n'est pas obscène » ou encore « Obscène because of you ». Les femmes ont manifesté dans l'établissement suite à une affaire qui a fait grand bruit. Donc Jeanne, 22 ans, s'est vue refuser l'entrée du musée d'Orsay à cause de son décolleté. « J'ai à peine le temps de sortir mon billet qu'une agente, c'est une femme, me regarde ainsi que ma robe et mes seins. » Elle me dit « Ah non, cela ne va pas être possible, ça ne va pas passer. » Une femme qui dit ça à une femme. La jeune femme a finalement été obligée de se couvrir pour pouvoir pénétrer dans l'édifice. Le problème, ce sont mes seins. C'était si gênant, car tout le monde me regardait. Je me sentais nue, je voulais tout de même rentrer dans le musée, donc je me suis couverte. Mais c'était si humiliant de devoir remettre sa veste et de la fermer. Comme quoi, même les femmes, même il y a des femmes pas gentilles.
C'est où le musée d'Orsay ? C'est en France ? Chez les talibans ?
Non, c'est à Paris.
Bah, comment on a déjà déplacé le Louvre ? Je ne sais pas.
Oui, ce serait possible. Ça serait possible. Ça serait bien possible. Alors, du coup, On a entendu parler de ça aussi, puisque ça a sûrement été dans la continuité. Lundi 14 septembre, manifestation des lycéennes pour justement s'habiller comme elles veulent. Ça serait bien. Non, Madame Coco, j'ai affairé à se préparer.
Oui, oui, j'aimerais.
Donc, avec les fortes chaleurs, les tenues deviennent plus légères. Évidemment, on va pas s'habiller en polaire, hein.
Ben non.
Donc, aux grandes dames de nombreux établissements scolaires, une mobilisation s'est organisée pour protester contre les règlements intérieurs jugés injustes. Enfin, ça, je dirais que ça date pas de maintenant, puisque même moi, au collège où j'étais avant, à l'époque, c'était les jeans troués.
Oui, mais ouais.
Et on nous interdisait d'avoir des jeans troués. Nous, les filles, hein, je parle.
Normalement, la femme n'a le droit de porter le pantalon que depuis 2013, officiellement.
Oui, normalement, oui. En plus,
après,
c'est
la
vrai.
Loi, hein, c'est depuis 2013.
Non, c'est vrai, hein, c'est vrai, en plus.
Bien sûr.
C'était mis, ça a été mis, comment dire, sous Napoléon, c'est pas ça, cette loi? Je crois.
Oui, oui, oui. Tout à
sous
fait.
Napoléon, où les femmes ne peuvent pas porter de pantalon,
voilà.
De shorts.
Elle a été abrogée qu'en 2013.
D'accord.
Voilà. Ouais.
Donc avant, vous étiez toutes hors la loi. Donc en plus, avec des trous, faut pas exagérer.
Ouais, non, mais on est rebelles, que veux-tu. Donc c'est un mouvement qui est né d'une mobilisation spontanée de jeunes filles et de quelques garçons. Le lundi 14 septembre regroupe les personnes qui souhaitent militer contre le jugement sexiste, fait sur les tenues, particulièrement des filles, bien évidemment. Tout est parti d'un rappel sur TikTok, relayé par de nombreuses personnalités publiques. Marlène Chapia, des associations féministes comme Nous Toutes, Collectif Engagé. Donc ce hashtag appelle les jeunes à se présenter dans leur établissement scolaire avec des tenues jugées indécentes parmi celui-ci. Ce peut être des tenues explicitement mentionnées dans le règlement comme des tenues jugées provocantes par les membres de l'équipe encadrante. Bah alors déjà, qu'est-ce que des tenues provocantes? Déjà. De toute façon, oui. Une femme en elle-même est provocante à les écouter. Donc, les témoignages affluent de jeunes filles postant des photos de vêtements qui leur a valu des remarques. Les internautes soulignent aussi que certains interdits visent aussi les garçons. Ce sont les filles les plus sujettes au contrôle de leurs vêtements et de leur apparence. Certains établissements interdisent même le maquillage et certaines coiffures. Faut le faire. Hein.
Ouais.
Les justifications sont souvent sexistes et moralisatrices. On accuse les filles de vouloir provoquer les garçons. Certains profs sont eux-mêmes montés au créneau dans ce mouvement pour affirmer que les jeunes doivent pouvoir porter les vêtements qu'elles veulent. Sur Twitter, l'une d'entre elles rappelle « Si l'argument est d'abord de protéger les filles, l'intention louable est fait contre-productive. De telles mesures inculquent la honte de soi et l'intériorisation de la menace comme une fatalité. Un autre affirme pour sa part, les filles peuvent porter ce qu'elles veulent. Madame la CPE, une conseillère principale d'éducation, avec qui nous avons échangé sur Twitter, confirme « J'estime que les ados devaient être libres de porter ce qu'elles veulent dans la limite du raisonnable. » Une tenue ne conditionne pas l'apprentissage. Elle ajoute concernant les réglementations, chaque établissement établit son règlement intérieur. Parfois, il est plus strict selon si c'est un établissement spécifique. La balle est donc dans le camp des directeurs-directrices d'établissement. Le débat est donc lancé pour changer ces règlements intérieurs qui reflètent le sexisme de la société et ne met pas les ados en bonne condition d'apprentissage. Peut-être faut-il aussi commencer à éduquer les garçons sur ce sujet.
Oui, voilà.
Hein,
ce serait bien aussi.
Ce serait bien. Mais tu sais que, par exemple, moi, étant sur Facebook, étant modèle photo, je suis obligée de dire en statut, je ne veux aucun commentaire sexiste, ou sinon je vous vire de mon compte.
Ça m'étonne pas.
Tu vois ? Et je pense que, bah, malheureusement, ça doit passer par l'éducation des hommes via les femmes. Malheureusement. Alors, donc la réponse de notre cher ministre Jean-Michel Blanquer, c'est Blanquier qu'on dit ou
Blanquer.
Blanquer. Je suis tellement au même de, je ne sais même plus qui est qui. Alors de toute façon. Alors, le lundi donc 14 septembre, les adolescentes à travers la France se sont jointes à un mouvement visant à dénoncer les injonctions sur les tenues des jeunes filles. Le ministre de l'Éducation s'exprime sur le sujet. Attention, le ministre de l'Éducation s'est exprimé au micro de BFM TV au sujet du mouvement du 14 septembre. On vous en a parlé hier, apparu sur TikTok. Il vise à libérer les jeunes filles des injonctions qui leur sont imposées au sein de leur établissement scolaire. Ainsi, les adolescentes ont été appelées à s'habiller librement, shorts, jupes, débardeurs. Elles étaient nombreuses à avoir opté pour des tenues souvent interdites et jugées provocantes en allant à l'école. C'est une action qui a pris beaucoup d'engouement et beaucoup sont celles qui ont dénoncé et témoigné du sexisme qu'elles ont déjà subi à cause des vêtements qu'elles portaient. Donc, pour rappel, ça existait déjà à notre époque, n'est-ce pas, Coco?
Oui, tout à fait.
Donc, ce lundi, donc Jean-Michel Blanquer, je vais avoir du mal, hein.
Ah oui,
c'est parce que je ne l'aime pas, alors déjà. Alors, a expliqué à BFM TV que le plus important est de respecter les règlements intérieurs de chaque établissement.
Oui, ben comme tous les politiques. Ils ne
vont pas dire le mot. Bah, oui, ils noient le poisson. Hein. Alors, bon. Il serait temps qu'il y ait dans ce pays des positions équilibrées. Bah oui, mais équilibrées dans quel sens? Parce que, tu vois, entre ceux qui veulent qu'on ne voit pas leur visage et ceux qui veulent des tenues à tout ordre, je pense qu'il y a une sorte de bon sens à avoir. Bah oui, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent.
Bien sûr.
C'est du bon sens.
Ouais.
Les propos de donc notre ministre de l'Éducation nationale, ne font pas l'unanimité et vont également à l'encontre d'autres discours diffusés par certains politiciens du gouvernement. Si ce dernier semble ne pas comprendre que l'équilibre d'une société se base avant tout sur la liberté et chacun de s'habiller comme bon lui semble et sans injonction, Marlène Chapia, ministre déléguée et à la citoyenneté, a soutenu le mouvement mené par les adolescentes à travers la France. Lundi 14 septembre, des jeunes filles ont décidé spontanément partout en France de porter jupes décolletées, croc top ou maquillage pour affirmer leur liberté face au jugement et aux sexisme. En tant que mère, je les soutiens avec sororité et admiration.
D'accord.
Mais du ministre de l'Éducation,
rien du tout.
Non, ça n'intéresse pas.
Bon, après, la majorité des hommes, je pense, sont respectueux, mais ce qu'il y a de certain, c'est que bah, là, en on fait, a affaire à une génération quand même qui est de plus en plus moralisatrice.
C'est ça.
Qui est déjà dans beaucoup d'excès et paradoxalement qui moralise de plus en plus via les réseaux sociaux, les choses comme ça. Donc c'est un peu triste, quoi.
Bah, je pense que ceux qui sont moralisateurs sont un petit pourcentage par rapport aux autres qui sont...
Complètement, mais ils sont très visibles, justement, par les réseaux sociaux et trop visibles.
Par les journalistes aussi.
Parce que la majorité des hommes, enfin, moi, je sais que... Y a pas, on laisse les gens s'habiller, faire ce qu'ils veulent, y a pas à juger quoi que ce soit. Et...
Bah non, de toute façon, autant pour les femmes que pour les hommes, toutes les manières.
Bien sûr.
Parce qu'il y a une personne, je ne sais plus qui a dit qu'il y avait une rave de punk et que les punks, ils avaient des os dans les cheveux.
Ouais.
C'est bon, il a appelé la police, la maréchaussée. Donc on voit qu'on n'est plus dans la même, tu vois.
Oui, voilà, oui, bon, après c'est.
C'est bon, voilà.
Laisser, hein, c'est.
Ouais, vaut mieux en rire. Bon, Angel, on passe de la musique.
Oui, donc alors cette fois je vais vous passer donc avec mon accent. Trollable Urge de Divo, sorti en 1980.
Et bien on écoute ça.
Yeah.
Alors, nous revoilà avec notre invité du jour. Si vous connaissez ou vous connaissez peut-être pas les faux passeports, vous êtes très connu dans la région.
Oh, très connu, on va pas être présomptueux. Mais
vous êtes connu.
On a une petite notoriété.
Donc, du coup, Christophe, votre groupe s'est créé en quelle année?
Bonne question, je crois que j'étais pas né quand ça s'est fait. Donc,
c'était papa qui avait commencé ça, le groupe.
Non, il y a 25 ans, mais moi j'y suis que depuis 23. Voyez.
Donc, ah oui, 25 ans quand même.
Oui, ça s'est créé avant que j'arrive. Donc oui, c'était un groupe qui avait été fait à l'origine par Jean-Luc, un des guitaristes, et Xavier, le bassiste. Mm-hmm. Les autres, je sais pas, je les ai pas connus. Donc,
voilà. En fait, donc il restait plus que deux sur le premier groupe initial, c'est ça?
Oui, enfin sur le premier groupe initial, moi quand je suis arrivé, il y avait quand même un batteur et un clavier.
Mm-hmm. Et ils sont partis aussi.
Et ils sont partis. Là, le groupe actuel, il s'est vraiment trouvé il y a 10 ans, quoi.
D'accord. Et vous êtes combien?
Tiens, c'est une bonne question, ça. On est cinq.
Ouais. Vous êtes cinq.
On est cinq, ouais.
Et donc, toi, tu chantes?
Et oui, on essaye.
Depuis, donc, 23 ans.
Depuis que je suis tout petit, moi, j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté. C'était un des grands plaisirs de mes parents de me voir faire du Claude François.
Ah ouais?
Ouais, le soir devant Marie-Thier et Gilbert Carpentier.
Et tes parents étaient dans le domaine musical ou...
Absolument pas. Non.
D'accord.
Non, mais j'étais gavé à Elvis Presley, Fat Domino, tous ces trucs-là.
Les grands des années 50-60,
quoi. Donc,
ouais. C'est marrant quand même.
Hein, ça.
Et ton métier, c'est d'être dans la musique ou...
Non. Je fais autre chose à côté, mais effectivement, j'ai failli partir dans ce métier-là il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on me proposait rien d'intéressant, pour être clair. C'est-à-dire que j'ai aucune imagination, donc je ne sais pas composer, je suis juste interprète. Mais pour réussir, il faut vraiment composer, il faut vraiment écrire, et encore, c'est pas sûr. Même en ayant du talent, c'est même pas sûr qu'on y arrive.
Non, c'est sûr.
Donc quand on ne fait même pas ça, c'est...
Parce que du coup, en fait, vous, le groupe fait des reprises.
On fait que de la reprise. C'est-à-dire que, bon, les compositions, on en a fait un petit peu au début.
Ouais.
J'ai un beau-frère également anglais, qui est musicien, et avec qui on avait déjà enregistré un album complètement à part. Mais c'est vrai que la composition, c'est très, très, très difficile pour se faire connaître, se faire une place et tout ça. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de composition. Hein. Quand on écoute aujourd'hui tous les morceaux qu'on entend à la radio, c'est des reprises des années 90, qui elles-mêmes étaient des reprises des années 80.
Donc il y a
très peu de créativité. Bon, il y en a encore quelques-uns, heureusement. Mais...
Puis quasi tout a été fait, on va dire.
Oui. Oui, je dirais que quasiment tout a été inventé, et notamment dans les années 70-80, où on a quand même eu un gros mix de musique très différente. Ça a quand même été une période où il y a quand même eu la soul, le rap, la new wave, le funk, le disco, le punk, le pop rock, etc.
Et
le rock and roll, forcément, bon. Qui était déjà là, mais voilà, on a vraiment eu à cette époque un gros mix de différents styles de musique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours très en vogue. Hein.
Tout le temps.
Mais donc, tous les groupes de ces années-là existent toujours, d'ailleurs, quasiment.
Mais donc, du coup, vous reprenez principalement quel style, vous, de musique?
Alors nous, on fait un peu tout. On fait beaucoup rock, pop rock. Donc ça part effectivement de U2, Police, Nirvana, Téléphone. Mais on fait aussi du Bruno Mars. Ça nous arrive. Donc un peu plus récent. Voilà, c'est vraiment très éclectique.
Non.
Alors la particularité de Faux Passeports, c'est que alors dans la reprise, je dis toujours, il y a pas 36 solutions. Ou on le fait pile poil pareil, ou on le fait vraiment à sa sauce, on va l'arranger vraiment d'une certaine façon, mais on peut pas être entre les deux.
D'accord.
Donc pour le faire vraiment à sa sauce, faut déjà être très bon musicien, ce qui est pas notre cas.
Ou très bon chanteur, parce que
très bon chanteur, parce que
aussi,
voilà. Oui, donc c'est quand même un gros travail déjà de faire une reprise vraiment à sa sauce. Donc nous, on les fait vraiment pile poil. Alors c'est aussi ce qui fait un peu l'ADN de Faux Passeports, puisque lorsque les gens viennent, pas être prétentieux, mais ils entendent le morceau original, quoi. Donc c'est ce qui fait que les gens aiment bien venir, parce qu'ils arrivent toujours, en plus comme ce sont toujours tous les succès de tous ces groupes, forcément il y en a un qu'on connaît,
donc qui parle principalement, j'allais dire notre génération, parce qu'on n'est plus tout jeune, mais quand on prend Indochine, J'ai plus le nom en tête, mais ou de particulier à particulier ou non partenaire particulier. Pardon.
On la fait pas celle-là.
Non, je sais. Non, mais je mélange. J'ai du mal moi toujours à retenir les noms. Alors donc du coup.
Mais ceci dit, il y a quand même toutes les générations. Alors c'est sûr, forcément, il y a la nôtre, mais on est toujours surpris dans les concerts, notamment quand on fait la fête de la musique. Il y a énormément de jeunes.
Mais de plus en plus, je trouve.
Oui, bien
de
sûr.
De plus en plus.
Et qui connaissent tout.
Ouais. Donc, qui s'intéressent à des choses où parfois.
Alors au début, on pensait que c'était notre public qui venait, et avec les années, ils venaient du coup avec leurs enfants. On s'est dit, tiens, non, c'est pas forcément que leurs enfants. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui.
Et qui s'intéressent vraiment à la musique d'avant.
Ouais.
Bon, vraiment. C'est vrai que sur certains trucs, quand on écoute la musique de maintenant, nous, on a peur. Alors, on peut s'imaginer que certains aient peur, mais.
Non, c'est.
Mais c'était des vraies paroles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les paroles.
Oui, enfin, mon partenaire particulier, on peut pas dire que c'était. Non, mais
ça, c'est les années 80,
quand même,
tu vois. Voilà. Les années 80, c'était quand même des. C'était,
oui, il y avait.
C'est, je te survivrai, je sais. Tu vois, c'est pas non plus. Je comprends. Mais avant.
Oui.
Tu vois.
Oui. Oui. Bon, après, il y a toujours eu des bons textes et des moins bons, chaque période. Hein. Donc, disons que l'avantage des années 70-80, c'est que c'était très éclectique. Donc, il y avait une grosse diversité. Grosse diversité. Alors, effectivement, aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas, mais à part le rap des cités où effectivement, les morceaux où c'est toujours la même base, peu zouk machine, ça fait 10 ans qu'ils tirent là-dessus, je trouve ça un peu triste quand même.
Ouais.
Mais à côté de ça, il y a quand même de très bonnes choses.
Ah, mais il y en a qui sortent des choses
superbes. Très, très bonnes choses.
Superbes.
Très bonnes choses.
Et puis, il y a le contraire.
Voilà.
Il y a le contraire.
C'est clair.
Voilà. Et donc, du coup, vous êtes 5.
On est 5. Donc il y a deux guitaristes. Enfin, il y a Vincent, guitariste, clavier. Enfin, moi, je l'appelle Rémi Brica parce qu'il fait tout. Guitariste, clavier, harmonica.
Voilà, il chante.
Un vrai musicien. Il chante aussi sur plusieurs morceaux, d'ailleurs. Il y a Jean-Luc, donc à la guitare solo aussi.
Mm-hmm.
Rythmique, solo. Enfin, bon musicien aussi. Xavier, qui est un bassiste, donc qui est le bout en train du groupe, comme tous les bassistes en général.
Il donne le tempo.
Oui, bah c'est important la ligne de basse.
C'est ça,
une ligne de basse dans un morceau.
Il donne le tempo avec sa personnalité aussi.
Puis, oui. Ah, bah, quelquefois il est surprenant. Hein. Il arrive à nous sortir des choses, on s'y attend pas. En plus, c'est toujours très drôle. Hervé à la batterie. Donc, qui est un très bon batteur. Et moi, au chant.
D'accord. Et donc, ils sont tous musiciens professionnels, tous amateurs.
Non, amateurs. Tous amateurs. Donc, voilà. Donc, tous pareils. Hein. Ils auraient pu partir peut-être un moment dans le professionnel. Bon, il y a eu des choix de vie,
que ce soit
des épouses ou des choix de vie différents. Donc, c'est vrai que quand on fait ce genre de métier, on est tout seul en général.
La vie
de famille, c'est compliqué.
C'est compliqué, donc, parce qu'il faut toujours être sur la route. Donc,
voilà.
Et du coup, vous allez où jouer? Partout en France ou
non,
vous
on reste essentiellement dans la métropole. Essentiellement dans la métropole, parce que le problème, c'est que ça fait 23 ans qu'on y est, on est vieux maintenant. Alors pour bouger, c'est compliqué. Donc, non, c'est vrai que on s'est limité effectivement à la région. Alors on est demandé quelquefois ailleurs. Donc c'est après c'est les questions de disponibilité. Quoi.
Oui, ça c'est sûr.
Questions de disponibilité, que ce soit avec les métiers. Moi, je joue dans d'autres formations aussi, donc je suis pas toujours disponible non plus. Mais oui, mais s'il y a moyen d'aller ailleurs, oui, avec plaisir. Mais il y en a déjà pas mal ici, entre le Nord et la Belgique, des dates de concert. Si on veut, on en fait toutes les semaines. Hein. Donc,
à ce point-là?
Ah oui. Il y a très très grosse demande sur les tributes, les covers. C'est...
Oui, en ce moment, en plus, c'est pas à la mode, mais on peut dire que si. Donc, mais tu m'as dit que tu faisais un autre tribute aussi.
Oui, alors il y a un autre tribute qu'on a avec les mêmes musiciens qui s'appelle To You, c'est un tribute de U2. Là, on fait
que du U2.
Alors on vise plus effectivement les festivals ou les choses comme ça.
Mm-hmm.
On joue en général avec d'autres groupes, d'autres tributes qui sont très très bons aussi. Mm-hmm. Donc on vise pas le même public, mais c'est pas le même challenge non plus, quoi. Et en parallèle avec ça, je joue aussi avec un autre guitariste. En acoustique ou avec un batteur et un bassiste quand il y a
des... Et là, c'est quel style?
Alors là, on est plus dans le pop-rock.
D'accord.
Pop-rock et variété française quand même, un petit peu. Ouais.
En étant en France, ça serait dommage de...
Et oui, bah oui, oui, on respecte aussi les quotas, on n'a pas le choix.
C'est ça,
choix.
Voilà, exactement.
Donc on est obligé de temps en temps de faire un Johnny Hallyday, de faire un...
Et donc, du coup, tu trouves du temps à faire tout ça?
Ah oui, moi j'ai abandonné la conception du travail depuis un moment, donc j'ai la chance d'avoir un boulot où je me dégage le temps que je veux, donc oui, j'ai le temps de travailler un petit peu tout ça.
Oh, c'est cool, hein?
Oui.
Bah, du coup, on va écouter Angel, les faux passeports.
Alors, j'ai deux extraits, et le premier que j'ai passé, c'est Roxane.
Mon Dieu.
Alors.
On y va? On a entendu donc un petit extrait, Roxane.
C'est pas plus mal.
C'est pas plus mal. Il aime pas ces chansons qu'on passe, dis donc.
Ah, mais je suis souvent comme tous les chanteurs, j'aime pas m'entendre. Donc.
Ah bah, c'est un peu comme tous les artistes,
oui,
on n'aime pas,
pas se voir,
on
n'aime
pas s'entendre. Voilà, on s'aime pas, c'est fou, hein. On fait, mais voilà. Dans la logique, on est censé avoir une estime de soi assez...
Je crois que les artistes font de la scène justement parce qu'ils s'aiment pas.
Principalement.
Ils vont chercher dans le regard des autres ce qu'ils n'arrivent pas à trouver.
Mais c'est justement là, en fait, où ça devient beau. C'est comme les chansons.
Bien sûr.
C'est plus ils sont en détresse émotionnelle
et plus ils
sortent des choses. Bah, je ne me quitte pas de Jacques Brel, je pense que c'était ça, hein, une rupture. Ouais. Donc
je crois que je suis pas assez en détresse émotionnelle pour devenir beau, bon, quoi.
Non. Faudrait vraiment que
j'ai abandonné l'idée là du coup.
Tu écriras peut-être de beaux poèmes, on sait pas, qui seront changés en chansons.
Qui sait.
Mais donc du coup comment j'allais dire ma phrase.
Vas-y, ça va venir.
Ouais, elle allait venir mais elle a pas voulu. Du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intégrer à ce groupe justement?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de... Alors, j'ai toujours chanté, effectivement, depuis que j'étais gamin, j'ai toujours adoré ça. Et avant, j'étais dans une autre partie artistique, on va dire, que j'ai arrêté à la naissance de ma fille, parce que j'avais plus le temps, à l'époque. Et au bout d'un an, il n'y a rien à faire, ça me démangeait. Mais ce que je faisais avant, c'était trop physique, donc j'ai abandonné.
C'était de la danse classique.
Non, rigole pas, c'était de la danse justement.
Ouais. C'était de la danse.
Oui. C'était du spectacle, voilà. Donc je vais pas développer. Les gens vont pas y croire. Bon, ça va, il y a pas le visuel, il y a pas les photos, donc c'est bon. Mais j'avais déjà plus l'âge pour ça, donc. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire du chant, j'ai toujours aimé ça. Et à l'époque, il y avait le fameux Galibo ou l'Inter 59. Hein, et donc, parce que c'est les petites annonces, c'était là-dedans. Quoi.
Ouais,
bêtement, voilà, j'ai ouvert le Galibo un jour que je ne voudrais jamais. Et j'ai vu groupe, voilà. Une petite annonce, groupe qui chantait, cherchait un chanteur.
Très bien. Donc, alors que tu n'avais jamais chanté.
Alors, si, j'avais déjà chanté sur scène.
Enfin,
j'avais
déjà fait. T'avais déjà fait des choses sur scène.
Oui. Mais bon, pas en concert, quoi. C'était pas en live avec des musiciens. C'était toujours sur des bandes ou des. Enfin, de temps en temps avec un orchestre pour des choses bien particulières, mais c'était pas régulier, quoi.
C'était pas régulier. C'était pas un concert. Non,
pas du tout.
Qui s'enchaînait.
Pas du tout. Non. Donc voilà, quoi, c'est. Enfin, le plus gros que j'avais pu faire, c'était pour le bicentenaire de la Révolution française, effectivement, avec un orchestre sur scène. Donc,
c'est vrai. C'était de la chanson.
C'était les chouans, c'était toutes les chansons révolutionnaires. Donc, voilà. Et là, je suis allé les voir. C'était un peu rock, c'était un peu dans le style que j'aimais. D'ailleurs, la première que j'ai chantée, ils m'ont fait chanter Roxane.
Ah ouais, d'accord.
Sympa, quoi. Quand on ne connaît pas, vas-y.
Et tu ne connaissais pas les paroles?
Je connaissais rien, moi.
Ah ouais?
Moi, je fais du yaourt.
Et pourtant, ils t'ont pris.
Oui, bon, j'avais quand même réussi à écrire les paroles. Hein, quand même. Mais c'est pas la plus facile à chanter. Mais bon, voilà. Puis ça s'est bien passé. Et puis, voilà, on est restés ensemble. On a la chance de s'entendre très bien.
Ça, c'est important.
Surtout avec Vincent qui est arrivé par la suite et Hervé à la batterie. Donc là, vraiment, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment. Il y a une bonne osmose dans le groupe, on s'entend bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dure. Hein. On dit toujours les groupes, c'est compliqué.
C'est ça.
Nous, on dure. Voilà. Bon, c'est. Alors, on dure. On n'a pas de prétention, hein, mais on se fait plaisir, quoi. Plaisir et les gens se font plaisir quand ils viennent nous voir. C'est ce qui me surprend toujours, d'ailleurs, c'est de voir régulièrement toujours.
Le groupe en lui-même, pour vous avoir vu une fois au Butter.
Relais 59. Non. Mais le better, mais on s'est vu. Ah non, t'étais peut-être pas resté d'ailleurs.
Je crois pas.
C'était au rendez-vous du marché.
Non, j'étais pas resté.
Ouais, t'es pas resté.
Mais voilà, vous faites un groupe. Enfin, le groupe en lui-même donne une énergie et du coup.
C'est ce que les gens aiment bien justement.
Ouais.
C'est l'énergie et pas se prendre la tête.
C'est ça.
Voilà.
Sans jugement, sans chichi, et vas-y qu'on danse. Bon, après, c'est quand même, au Butter, c'était quand même plus des gens de notre génération.
Oui.
C'était marrant, parce que du coup, t'avais à chaque chanson qui nous rappelait notre jeunesse, t'avais tout le monde qui sautait.
Ah ben,
t'avais l'impression de revoir les jeunes,
c'est ça,
plus
ouais.
vieux, mais des jeunes quand même.
C'est ça.
Ouais.
Mais c'est justement ça le plaisir. Nous on a jamais autant de plaisir de voir les gens chanter, de voir les gens bouger, enfin danser, c'est voilà quoi, tout ce qui fait passer un bon moment, quoi. Donc en plus, bon, moi je suis un peu un escroc, j'adore donner le micro aux gens.
Ouais, c'est vrai.
Hein, donc oui, mais bon, voilà, c'est.
Oui, mais c'est ce qui c'est ce
qui
sympa,
est marrant,
quoi.
Je veux dire, et effectivement, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour dire tu chantes bien, tu chantes pas bien, c'est pas. Donc, quelquefois, ça donne des choses assez extraordinaires.
Oui,
mais...
c'est vrai.
Mais ça fait partie des bons souvenirs.
Mais c'est ça, en fait.
Hein.
Et il y a des chansons qu'on vous demande plus que d'autres?
Ah oui, il y en a quelques-unes, forcément. With or Without You de U2, par exemple. Ça, c'est un incontournable. Il n'y a pas. Et après, oui, dans les chansons qui donnent un peu la pêche, des téléphones, forcément.
Oui, ça, oui. Indochine, je suppose, aussi.
Non, bizarrement, pas Indochine.
Ah ouais.
Non, bizarrement, pas Indochine. Ah oui, non, c'est compliqué, après,
pourtant,
de leur faire jouer.
Pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup de succès, à l'époque.
Oui, mais je peux pas tout leur faire jouer. Hein. Ils ont un peu de mal. Hein. Ils sont plutôt rock. Et quelquefois, c'est compliqué. J'ai quand même mis 15 ans à leur faire un Simple Minds, quand même. Donc, c'est pas leur style. Mais voilà, mais c'est des morceaux que les gens aiment bien, quoi.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Que les gens aiment bien. Donc, bon, ils s'y prêtent quand même, quoi. Donc,
bon, ça, c'est bien.
Bon, maintenant, si on rajoute un nouveau morceau tous les 15 ans.
Bon, ça devrait aller quand même.
On va peut-être pas renouveler beaucoup le répertoire.
Non, pas du tout. Et toi, la chanson que tu préfères chanter?
Ah, la chanson que je préfère chanter.
Ouais.
Il y en a plein, quoi. Moi, c'est compliqué parce que j'aime bien tout. J'aime bien tout.
Hétéroclite?
Ouais, niveau musical, les seuls trucs sur lesquels j'ai vraiment jamais adhéré, c'est vraiment le punk. Voilà, parce que
le rap.
Ça fait trop de bruit. Alors le rap, j'aimais bien le rap effectivement dans les années 70-80 parce que je trouvais ça assez festif.
Ouais, mais ils étaient bons, hein, quand même.
Ils étaient bons, ouais. Il y avait d'excellents groupes de rap et malheureusement aujourd'hui, alors il y en a d'autres qui sont bons, hein, c'est J'ai ma fille qui me tanne avec ça, qui me fait écouter de temps en temps des choses. Oui, il y a des choses qui sont bonnes, mais ce que je regrette aujourd'hui dans le rap, enfin en tout cas le rap français, c'est que c'est toujours très très agressif et c'est toujours les mêmes, ça parle toujours des mêmes choses, quoi.
C'est
donc
ça,
c'est un vrai. Petit peu, c'est un peu triste, quoi.
Alors qu'avant, il parlait quand même plus de choses. Quand même.
Oui, ça parlait de plus de choses et c'était quand même plus festif. C'était plus dansant, c'était plus. On sentait qu'il. Voilà, il y avait des choses revendicatives, bien sûr,
oui.
Mais c'était...
Bah, c'était plus de la revendication
non agressive, non violente, voilà. Bon, après, de toute façon, la musique a toujours été revendicative, hein. Tous les styles...
mais sans violence...
Mais sans agressivité, quoi.
Sans gros mots, voilà.
Que le rap, effectivement, ça... J'ai rien contre le rap, hein, en condition que ce soit bien fait, quoi. Mais si c'est effectivement vulgaire et toujours laisser sortir les mêmes... Les mêmes débilités. Je suis désolé, je suis un peu dur, mais bon, quelquefois il y a pas d'autre.
Si ça reflète peut-être un peu aussi la société actuelle.
Oui, ou une partie de la société.
Oui, une partie de la société.
On
crie sans discuter.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc bon. Après voilà. Donc du coup.
À part pas de
le
chansons.
Rap et le punk,
sinon tout le reste.
Sinon tout le reste, ouais, je suis. Oui, après des chansons, voilà quoi. Mais deux chansons que j'affectionne particulièrement, c'est One de U2. Et c'est une autre que je ne fais pas avec Faux Passeport, mais que je fais avec l'autre groupe qui est Purple Rain de Prince.
Ah oui.
Voilà. Donc ça c'est les deux grands kiffs, quoi.
Mais vous l'aviez pas fait au Butter, si?
Non, Purple Rain, non.
Non,
je l'ai fait avec mon.
Et pourquoi Purple Rain?
Parce que si y a un artiste dont j'ai toujours été fan, c'est vraiment Prince.
Ah ouais?
Ouais, bizarre. Hein
bah ouais. Non, parce que de toute façon, je ne sais pas à quoi tu ressemblais quand tu étais jeune.
C'est
donc...
vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un peu mieux que maintenant. Mais... bah, j'ai toujours été plus funk que rock, hein, bizarrement. Donc,
parce que Prince portait des talons.
Oui, bah, il faisait 1m56, ça peut se comprendre. Donc,
Je connaissais des fans qui, eux, portaient des talons aussi.
Ah oui,
tout
non, quand je dis fan, pas de là à m'habiller, me coiffer comme... non, je suis quand même pas... Non, je parle de la musique et voilà, quoi. Pour moi, c'était un très, très grand musicien. Quoi.
Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu autant de succès, je pense.
Bien sûr. C'était une bête de scène et très
ça,
grand musicien.
Quoi. Même s'il était petit.
Oui, bah, comme quoi, hein, ça n'enlève pas le talent. Hein.
Ouais, moi, j'aimais beaucoup Kiss.
Oui.
Oui. Qu'est-ce qui était plus sensuel? Bah, moi, je parle du côté danse, parce que pour moi,
c'était plus dansant, oui.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Purple Rain, c'était beaucoup plus lent.
Ah, c'est le slow, comme on dit, hein, ce qu'on n'entend plus aujourd'hui, mais.
C'est bien dommage.
Oui, c'était.
C'est bien dommage.
C'était le morceau. Mais ça prend en trip, quoi. C'est un morceau qui prend en trip.
Ouais.
Enfin, surtout dans sa façon de chanter, quoi.
Bah, puis même la musique par derrière, c'était.
Ouais, il fait pleurer sa guitare quand même, c'est chouette. Bon, et voilà, donc c'est des morceaux effectivement qui me parlent.
Et toi, Coco? Parce qu'on n'entend pas parler depuis tout à l'heure.
C'est vrai.
Hein, qu'est-ce que tu aimais?
Moi?
Dans nos années jeunes.
Moi, j'étais très CDC.
ACDC?
Ah oui, on en fait aussi d'ailleurs. Ça nous arrive. Ouais.
C'est tout?
Ça se secoue, je sais plus, il y en avait plein.
Ouais, plus trop.
Bon, après, j'ai aimé aussi. Hein. J'ai aussi des albums à la maison.
Ouais, c'est des trucs où... moi, je réfléchis, c'est pareil. On a tous été un peu hétéroclites, en fait, finalement, durant cette période.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, je crois qu'on a passé notre adolescence. Alors, je ne veux pas être discourtois en disant qu'on a à peu près le même âge, mais... je crois qu'on a, on a passé notre adolescence, effectivement, dans cette période où il y a eu un tel mélange de musique que, forcément, on était hétéroclites.
Puis, il n'y avait pas autant la télévision, ni Internet,
oui,
ni tout ça. Donc, en fait, on écoutait principalement les émissions. Ouais, les émissions le samedi après-midi où tu entendais la musique et tout
on
ça.
On sortait avec nos radiocassettes et puis on écoutait
Walkman.
On se retrouvait...
Moi, j'ai connu le Walkman, la fin du Walkman, puisque après, peu de temps après, on passait au CD... Donc c'était marrant, la cassette qu'il fallait remonter. Et du coup, puis parfois, ne marchait plus, du coup. Mais c'était marrant.
Non, c'est parce que tu les as pas bien entretenues, c'est pour ça.
Oui, bon, écoute, je faisais ce que je pouvais. Non, mais c'est vrai que c'était une période où, si je prends mon cas, on n'avait que la 1, la 2, la 3. Donc du coup, on entendait plus... En fait, on mettait plus souvent la radio...
Oui, on n'était pas télé, je crois.
Et on était moins télé, quoi.
Et on sortait beaucoup plus, on allait voir les copains et on passait des après-midi complètes à écouter de la musique.
C'est ça.
Voilà, ça nous suffisait.
C'est ça.
Ça nous suffisait.
Donc, et encore, on avait encore à l'époque les émissions qui faisaient venir des artistes.
Oui, il y avait les enfants du rock, il y avait toutes ces émissions-là. Donc,
Il y a eu les Hit Machines aussi, à un moment donné, où justement, il y avait Michel Drucker aussi qui passait pas mal aussi. C'est dommage.
Ouais.
C'est dommage. Maintenant, tu cliques et puis tu restes derrière ton ordi, puis t'écoutes.
Oui. Mais bon, c'est bien pour ça qu'on fait des concerts.
Heureusement.
Ça permet de et c'est peut-être aussi pour ça que il y a énormément de tributes et de covers
qui reviennent.
Qui marchent très bien. Ouais. Parce que les gens n'attendent que ça, c'est de sortir et d'aller voir, on parlait de mode tout à l'heure, pour moi, c'est pas trop une mode, les covers ont beaucoup de succès parce que, d'abord, il y a des groupes qui n'existent plus. Donc, ça permet aux gens qui étaient fans, effectivement, de Status Quo, par exemple, d'aller voir un tribute et de retrouver un peu tous les morceaux de Status Quo, par exemple. Hein. Je veux dire, et il y en a d'autres qui existent encore, mais les gens n'ont pas les moyens d'aller voir les vrais concerts.
Oui, aussi, tu vois.
Donc, d'aller voir un bon tribute, quelquefois, ça fait... On a la chance, dans la région, d'avoir d'excellents tributes.
Ouais. Ouais.
Il y a vraiment de la qualité, de la qualité musicale.
On va se retrouver après une petite page de publicité.
Chouette.
N'est-ce pas, Coco?
Ah bon?
Oui, ça va être à toi après. Juste après. Tout de suite après.
Moi, je me prépare.
À tout de suite.